le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de ce nouveau numéro de notre magazine citoyen. 4 mois après le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, le bilan des dégâts subis par les établissements scolaires calédoniens est évidemment très important. Écoles, collèges et lycées incendiés ou saccagés, le secteur doit se réorganiser, se réadapter à cette situation. Un sujet dont nous allons parler aujourd'hui dans ce magazine. Nouvelles cartes scolaires, évolution démographique. Nous sommes en compagnie du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, Didier Vindatich, du deuxième vice-président de la province Sud, Gilles Brial, et du premier adjoint au maire de Nouméa, Jean-Pierre Delrieux. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Et merci d'avoir accepté cette invitation pour un sujet qui concerne évidemment de très près les familles calédoniennes. Gilles Brial, on sait que la province Sud, la semaine dernière, a acté la fermeture définitive, c'est le terme administratif qui a été employé, du collège de Rivière-Salée. C'est une décision évidemment qui a été, on l'imagine, très difficile à prendre.
Ah ben c'est une décision douloureuse, mais qui s'impose à nous. Elle s'impose à nous parce que le collège a été détruit à plus de 60%. On a beaucoup d'établissements scolaires, des collèges publics de la province qui ont été incendiés, attaqués. Ça représente 1,6 milliard de travaux. Et sur ce 1,6 milliard, il y a 738 millions pour le collège de Rivière-Salée. Donc on n'a pas la capacité technique et financière de faire autant de travaux avec des salles de cours ouvertes. Ça, c'est la première raison. Et puis après, ça s'impose également à nous parce qu'on a une baisse de la population scolaire. Entre 2020 et 2024, on a perdu 1454 élèves dans le primaire. C'est bien ces élèves du primaire qui vont dans nos collèges après. Dans la même période, sur la seule commune de Nouméa, on a perdu 522 élèves dans nos collèges. Et donc, on a une baisse régulière. Et donc, on a des collèges aujourd'hui qui sont en surcapacité par rapport au nombre d'élèves qui sont accueillis. Donc, on est dans une situation financière très difficile, qui sont liées aux actes terroristes qui ont eu lieu depuis mai, avec la baisse de la fiscalité, avec de nombreux départs, et il faut en prendre compte. On n'a pas la capacité ni technique ni financière de reconstruire, et malheureusement, il n'y a même plus le besoin aujourd'hui à cause de ces départs. Dernier chiffre, alors c'est beaucoup de chiffres, hein. Depuis mai, jusqu'à aujourd'hui, on a presque 700 élèves du primaire qui ont quitté la province Sud pour partir soit en métropole, soit ailleurs dans le monde. Et on en a un peu moins de 400 qui sont partis dans la province des Îles ou dans la province Nord.
Alors la question aussi, c'est peut-être aussi celle du dimensionnement, puisqu'on sait qu'il y avait 387 élèves au collège de Rivière-Salée avant le début des émeutes, alors que le collège était conçu pour beaucoup plus en fait.
Oui, c'était un collège, ce qu'on appelle un collège 900. Mmh. Et donc, nous, notre objectif, et d'abord je remercie la commune de Nouméa qui nous a permis d'avoir une solution qui tient jusqu'à la fin de l'année et qui va tenir 2 ans en nous mettant l'école Arsapin de manière très rapide à disposition. Et on a fait un gros travail avec le vice-rectorat, le gouvernement et la commune sur comment on assure une bonne qualité d'accueil des élèves. Ce qui compte pour nous, c'est que l'enseignement se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et on a la possibilité, comme le collège de Rivière-Salée était surdimensionné, mais on a autour, on a le collège de Porte de Fer, qui sera le collège d'accueil, mais on a le collège de Normandie, le collège de Coutiot, de Caméré, ce sont des collèges où il y a de la place, et où il y a des bonnes conditions d'accueil. Donc les élèves de Rivière-Salée, qui vont aller demain au collège de Porte de Fer, seront accueillis dans de très bonnes conditions. Et c'est ça qui compte pour nous. Alors, bien sûr, il y a des contraintes de déplacement, mais qui existent dans de nombreux quartiers. À la Vallée des Colons, au Faubourg Manchot, il n'y a pas un collège. On ne met pas un collège par quartier. Ça, c'est pas possible. Donc, on s'est engagé, nous, la province, à régler la problématique de transport. Et on a travaillé avec le vice-recteur, avec le gouvernement et la mairie pour que les élèves, encore une fois, soient accueillis dans les meilleures conditions. Et il n'y aura pas une dégradation la qualité d'enseignement pour les collégiens de Rivière-Salée.
C'est ça qui compte, monsieur le vice-recteur, on est bien d'accord, hein. C'est une décision, encore une fois, votre commentaire là-dessus est évidemment très difficile de fermer un collège, mais ce qui compte, c'est évidemment la qualité de la continuité pédagogique, j'allais dire, le fait que les élèves qui ne peuvent plus aller dans ce collège soient suivis, peut-être un peu particulièrement, peut-être de façon plus attentive.
Bien entendu, il s'agissait pour nous de trouver donc un site voisin du collège Rivière-Salée en capacité d'accueillir ses élèves. Il y avait plusieurs solutions possibles qu'on a analysées. Et notre choix s'est porté sur le collège donc, de Portes-de-Fer, qui est un très bel établissement, qui dispose de capacités d'accueil dans lesquelles nous pourrons effectivement scolariser tous les élèves de 6e et de 5e à la rentrée prochaine dans cet établissement.
Ça veut dire que la continuité pédagogique pour rassurer un peu les familles, qui légitimement d'ailleurs s'inquiètent des nouvelles conditions dans lesquelles leurs enfants vont être accueillis, tout le monde s'est mis, il y a une sorte d'union sacrée, j'allais dire, entre toutes les institutions concernées. Je vais vous donner la parole, Jean-Pierre Delrieux. On voit que tout le monde s'y est mis, finalement, pour essayer de résoudre les problèmes.
Ben, je crois que c'est une grande famille. L'enseignement, on le dit toujours, mais c'est vrai qu'au niveau des collectivités, l'accord est toujours là, et heureusement. Ce que je dois dire, pour compléter ce que disait Gilles, on est obligé à un moment donné de fermer des établissements. Moi, je suis à 6e école fermée dans Nouméa depuis 2014, dont 3 à Rivière-Salée quand même. Donc il faut après organiser des réunions avec les parents, organiser des réunions avec les personnels, etc., pour pouvoir accueillir les enfants dans d'autres établissements qui sont proches, puisque pour les écoles élémentaires ou primaires, c'est la même chose. Ils sont dans le quartier, mais parfois, quand on a fermé Vallée des Colons, il fallait que les parents emmènent leurs enfants un peu plus loin, etc. Donc c'est une adaptation complète. Mais à quoi sert-il de garder une 50aine d'élèves dans une école où on a des CP, où il n'y a pas d'interaction entre les enfants, puisque c'est l'apprentissage, ça se fait aussi avec le maître, mais avec les autres élèves. Donc c'est pas de gaieté de cœur, mais c'est encore l'enfant qui reste l'essentiel dans cette démarche.
Est-ce que ça veut dire, Gilles Briel, qu'à terme, il faut une nouvelle carte scolaire, en fait, qui tienne compte, évidemment, de l'érosion de la population, en tout cas, peut-être pas de l'érosion, mais de l'évolution démographique de la population calédonienne en général, et puis aussi, peut-être, le fait de redimensionner, j'allais dire, les établissements scolaires à la taille réelle de la population?
Oui, mais complètement. Mais c'est du pragmatisme. En fait, on doit tenir compte d'une démographie en baisse. On a un solde migratoire négatif. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui quittaient la Nouvelle-Calédonie avant ce qui s'est passé au mois de mai. C'est accentué depuis mai. Et c'est des personnes qui ont des enfants. Donc, nos écoles et nos collèges perdent des effectifs. Donc, ils sont dimensionnés pour un certain volume de population. Et quand on a moins de personnes, c'est normal qu'on réduise, qu'on fasse des fermetures d'écoles ou de collèges. Et puis après, c'est une question de bonne gestion. La Nouvelle-Calédonie doit apprendre à vivre avec ses moyens. Dans l'Assemblée de la province, on avait également la fermeture du collège de Thiot qui est prévue pour la rentrée 2026. Parce qu'à Thiot, on a deux établissements scolaires, on a deux collèges, un public, un privé, et chacun des deux établissements à moins de 50%, à 45% de taux d'occupation. Et ce travail, on doit le faire sur l'ensemble du territoire. Là, je prends ma casquette et membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'à la fin, ce sont les Calédoniens qui payent. Nous, on subventionne la province, on subventionne à la fois l'enseignement public et l'enseignement privé. Et on n'a plus les moyens de mettre côte à côte des collèges qui sont un tiers, à moitié remplis, alors qu'on peut les mutualiser. Et quand on mutualise, on fait certes des économies, mais en plus, on améliore la qualité d'enseignement, parce qu'on peut se concentrer sur un établissement, parce que ça vous permet d'avoir plus des équipes de titulaires qui restent en place. Donc on améliore finalement notre système éducatif. Et ce travail doit être fait en province nord, il doit être fait en province des îles également. Mais on s'adapte simplement à la réalité de notre population.
Monsieur le vice-recteur, sur cette question de la carte scolaire, elle doit évoluer selon vous ?
Absolument. Il y a un mouvement démographique qui est incontournable, qui est au fondement, je dirais, des dotations de nos établissements. Moi, le chiffre que je cite souvent, c'est que nous avons perdu au cours des 10 dernières années l'équivalent de 12 collèges de taille moyenne, c'est-à-dire 300. Donc vous imaginez le volume que cela représente de population à scolariser en moins. Et ce mouvement va se prolonger. Ça, c'est la composante tendancielle et structurelle. Et puis, il y a le mouvement conjoncturel dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les mouvements très récents liés aux migrations des populations, soit à l'extérieur. Bon, les chiffres sont variables, mais on est sur plusieurs centaines, en effet, d'élèves que nous avons perdus aussi dans le secondaire, et les migrations internes. Donc, ça sont des données vraiment nouvelles qu'il faut absolument intégrer dans le cadre de la préparation de rentrée, qui cette année, effectivement, est inédite. Je pense qu'on n'a jamais on aura fait une rentrée en Nouvelle-Calédonie en fermant des établissements de cette importance.
Oui, parce qu'en plus, il faut rappeler quand même que les rentrées, ça ne se prépare pas 15 jours avant. C'est un long travail qui dure finalement toute l'année. Il a fallu que vous teniez compte, les uns et les autres, évidemment, de ce qui s'est passé depuis le 13 mai. Des collèges qui étaient utilisables, pas utilisables, des lycées qui avaient été détruits ou saccagés. Comment ça s'est passé ? Comment ça marche ? On fait d'abord le bilan et puis après on voit comment on répartit les choses ?
Oui, là c'est donc une année quasiment se prépare un an avant, hein, quasiment, enfin 10 mois avant, puisqu'il y a la phase d'établissement des bilans démographiques, puis après on prépare la rentrée suivante. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les dotations des établissements, nous les avons déjà délivrées aux établissements et nous les avons fait sur la base de constats démographiques établis avant la crise. Donc nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a des mouvements divers qui ne sont pas stabilisés. Donc on devra nécessairement, sur cette base, procéder à des ajustements au moment de la rentrée. Enfin, déjà en novembre, décembre et puis ensuite au mois de février, on fera des ajustements. Mais on ne souhaite pas déstabiliser non plus le système. Donc on va essayer de préparer une rentrée dans laquelle, comme c'est souvent le cas, il n'y aura pas de fermeture d'établissement. De classe. Et donc de façon à pouvoir faire une rentrée paisible et d'accompagner le système éducatif dans sa phase, on va dire, de reconstruction, voire de refondation.
Jean-Pierre Delrieux, même question. Il y a une évolution attendue au niveau des écoles dans Nouméa ?
Oui, alors déjà sur Nouméa, donc nous perdons chaque année à peu près 400 élèves, puisque nous étions en 2014 à 12 000 élèves. Nous sommes aujourd'hui à moins de 8 000. Donc c'est une adaptation continue avec la province. On regarde le nombre de classes que l'on va fermer. On en ferme en général entre 8 et 9 par an. On avait déjà fait ce travail pour 2025. Donc c'était une perte de 300 élèves à peu près, fermeture de 9 classes. Ça s'est accéléré puisque depuis le 13 mai, la DRS, donc la Direction de l'éducation de la province sud, a fait un travail très affiné. Et sur Nouméa, on a déjà perdu 500 élèves entre le 13 mai et aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à la rentrée 2025, on attend les chiffres parce qu'on on va avoir les dérogations, etc. Il y a eu les inscriptions des plus petits. Mais on va avoir, je pense, une surprise entre un déficit de 700-800 élèves par rapport aux années précédentes.
Alors, ce déficit, il est intéressant aussi parce que c'est bon pour les gens qui ont quitté le territoire. Évidemment, la question se pose plus. Mais la question des migrations internes que vous évoquiez, monsieur le vice-recteur, est intéressante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des mouvements de population qui auraient tendance, Gilles Brial, éventuellement, à quitter la province sud. Par exemple, des familles qui souhaiteraient rentrer dans le nord ou rentrer dans les îles. Comment on peut définir ça ? Ce mouvement.
Oui, on a vraiment une double migration. On a l'externe. Nous, depuis le 17 mai, là, à 10 jours, on avait 1131 élèves qui avaient quitté les écoles primaires publiques de la province sud, sur l'ensemble du territoire de la province sud. Donc il y en a à peu près 700 qui ont quitté le territoire. Il y en a moins de 400, c'est 378, qui sont repartis, une partie en province des îles et l'autre partie en province nord. Donc ces élèves-là, on ne sait pas si ils ont quitté leur école parce qu'il y avait de l'insécurité, ils attendent que ça se calme et ça revienne, ou s'il y a un mouvement des parents qui ont perdu leur emploi en province sud et qui sont partis dans le nord et dans les îles. Et après, on a, pour le reste, ce sont des élèves qui sont partis du public vers l'enseignement privé. Et donc voilà, il y a ces mouvements. Et ce qui est compliqué, et le vice-recteur et le premier adjoint de la mairie de Nouméa le disait, c'est que d'habitude, on le prévoit longtemps à l'avance. Et là, on a beaucoup de mouvements. Donc on a dû prendre des décisions rapidement. La fermeture du collège de Rivière-Salée, mais parce qu'il fallait la préparer pour la rentrée de l'année prochaine. Mais on a un travail important qu'on fait avec les communes, et je remercie leur réactivité. On ne sait pas exactement à quoi va correspondre la carte scolaire l'année prochaine. On ne sait pas parce que si les 400 qui sont partis dans le nord et dans les îles reviennent ou qu'ils ne reviennent pas, ce n'est pas la même chose pour, la répartition dans les classes. Donc c'est vrai qu'on y va malheureusement en tâtonnant et on doit avoir un peu d'agilité à ce niveau-là, malgré le fait que ça se prépare longtemps à l'avance, la rentrée.
Sans compter le fait que si, en étant optimiste, s'il y a une reprise économique, une sorte de stabilisation de la situation en Nouvelle-Calédonie dans les mois qui viennent, il est possible qu'on assiste à un mouvement inverse, c'est-à-dire des familles qui, du coup, décident de revenir ou d'autres familles qui arrivent tout simplement pour travailler en Nouvelle-Calédonie qui ont besoin de scolariser leurs enfants. C'est ça aussi la difficulté de l'anticipation, monsieur le vice-recteur.
Ah oui, je pense que la prudence s'impose, la compréhension de nos partenaires aussi, puisque la rentrée va être très, très particulière. Bon, moi j'ai connaissance de flux très importants à l'intérieur même de la province sud, entre certains établissements. Là, c'était vraiment lié aux événements. Possiblement, la population va rejoindre son établissement d'accueil. Bon. Un autre flux, dit-on important, mais que je demande aussi à bien pouvoir mesurer et à stabiliser, c'est un flux vers la province des îles. Aujourd'hui, la province des îles est cependant en capacité d'absorber les flux entrants. Et peut-être que les élèves en question vont-ils revenir sur la Grande Terre. Donc tout ça nous invite évidemment à faire une rentrée prudente et pour arriver à stabiliser l'ensemble des organisations scolaires.
Alors je voudrais qu'on dise quand même un mot des enseignants qui sont évidemment tous mobilisés sur cette question. Comment est-ce qu'eux, ils vivent cette situation qui est évidemment un peu complexe, parce qu'un enseignant qui enseigne depuis des années au collège de Rivière-Salée et qui est obligé d'aller dans un autre établissement, c'est pas forcément évident, ça change beaucoup d'habitudes, ça change beaucoup de choses, Gilles Brial.
Alors d'abord, il y a la souffrance de voir son outil de travail, un établissement scolaire, qu'il soit une école primaire ou que ce soit un collège, le personnel qui y travaille, c'est du personnel qui travaille pour la jeunesse et pour préparer la Nouvelle-Calédonie de demain. Et quand vous travaillez pour toute la jeunesse calédonienne, quelle que soit son origine ethnique, sociale, politique, et que vous êtes confronté du jour au lendemain à la destruction complète par des actes... Moi, c'est pour ça que j'utilise le terme terroriste, parce qu'on est en train de banaliser ce qui s'est passé. Il n'y a rien de banal dans ce qui s'est passé. C'est violent quand vous êtes un enseignant. C'est violent parce que vous avez un métier qui est au service de cette jeunesse. Et ça se retourne, vous avez l'impression que ça se retourne contre vous, alors que ce n'est pas eux, personnellement, qui sont visés, c'est les institutions. Mais du coup, c'est à titre personnel, pour chacun d'entre eux, c'est violent.
Ils sont en première ligne, oui.
Donc il y a eu ce passage à faire, et ils ont été accompagnés par les employeurs, par les communes, par le vice-rectorat, par le gouvernement. Et après, il y a rebondir. Il y a des écoles qui sont fermées. Il y a des écoles à Nouméa, à Païta, qui ont été entièrement incendiées, donc ils ont dû se réadapter, comme on le fait pour le collège de Rivière-Salée. Et bien là, c'est de l'adaptation. C'est malheureusement... au début, des conditions dans l'urgence qui ne sont pas identiques à celles d'avant. Et après, on travaille avec eux pour les ramener dans des conditions normales d'enseignement. Mais ça a forcément un impact sur eux en tant que personnes. Certainement, des enseignants sont des personnes humaines, comme vous et moi, sont des Calédoniens qui sont meurtris dans leur chair de voir ce qui s'est passé et qui sont au contact de cette jeunesse qui, pour certains, quand vous êtes dans un collège, ben, imagine qu'il y a une partie de ceux qui les accueillent aujourd'hui qui sont proches de ceux qui ont brûlé leur propre établissement. Et ça, c'est compliqué à gérer.
Didier Vindati, vous êtes vice-recteur et directeur des enseignements, mais vous êtes, comme vient de le dire Gilles Brial, aussi une personne. Et donc, vous l'avez vécu comment, ce moment ? C'est évidemment très compliqué, on imagine.
Il se trouve que j'étais donc hier au collège de Rivière-Salée, puisque nous avons rencontré avec notre DRH l'équipe enseignante. Bon. Je veux que les auditeurs entendent qu'on est vraiment dans une logique d'accompagnement qui se met en place, puisque la mesure vient d'être prise et que cela demande plusieurs semaines, mais que nous avons une DRH qui est très attentive au sort de nos personnels. Alors j'ai bien vu hier ce que disait M. Brial à l'instant, qu'il y avait beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Notre travail, c'est de donner les réponses à des questions légitimes qui sont posées par nos enseignants. C'est ce que nous avons fait hier. J'ai vu effectivement beaucoup de tristesse aussi, à la fois chez des collègues assez jeunes, puis d'autres aussi, effectivement, qui ont une ancienneté plus grande dans l'établissement, à l'idée de perdre leur établissement auquel ils sont très attachés. De la même façon qu'au début de la crise, on avait imaginé délocaliser une partie des élèves. Eh bien non, la population était très attachée. Bon. Donc je comprends cet attachement. Mais il faut surtout accompagner, répondre aux questions que les enseignants se posent, expliquer les mesures d'accompagnement, notamment liées aux cartes scolaires, et répondre à d'autres questions de type équipement matériel, etc. Enfin, tout ce qui fait que la vie éducative et pédagogique va demeurer de qualité alors qu'on est entré dans un processus de de transformation sans précédent.
Jean-Pierre Delrieux, même question, quand vous fermez une école à Nouméa, c'est aussi difficile humainement que administrativement.
Très difficile, mais c'est plus difficile quand cette école brûle. On a eu quand même 3 écoles qui ont brûlé et une qui a été entièrement saccagée. Il a fallu déplacer les équipes enseignantes, les enfants évidemment, les équipes enseignantes, mais aussi les équipes municipales, les équipes de la Caisse des écoles. Et ça a été un crève-cœur pour eux d'être obligés de quitter leur établissement. Alors l'accueil a été fait avec toujours la DRS, les inspecteurs, etc. Il y a des projets qui ont été montés même pour pouvoir accompagner d'abord les directeurs d'école, ensuite les directeurs d'école par rapport à leurs enseignants. Et puis les enfants, comment aussi accueillir les enfants dans des nouveaux locaux et puis même après les événements qui s'étaient passés. Il y a eu vraiment un gros travail. Moi, je tiens à féliciter, à remercier les personnels parce que ça a été un grand travail. On a eu des rentrées échelonnées, parce qu'on travaillait avec le rectorat aussi, pas le rectorat, le Haussaria pour la sécurité. Ça aussi, il fallait aussi aller dans des endroits. Rivière Salée, ça a traîné. Moravel, ça a traîné. En plus, il y avait la pollution, le froid. Enfin, il y a eu multitude de problématiques qu'il a fallu régler avant de pouvoir ouvrir à nouveau les écoles qui avaient été touchées. On a encore des problématiques, puisque sur les 3 écoles qui ont été brûlées, les 4 écoles brûlées, une saccagée, pour la rentrée 2025. Par exemple, le quartier de Dicos n'est pas encore réglé. Moi, j'attends que l'État nous aide, puisqu'ils ont dit qu'ils nous financeraient à 100% pour la reconstruction. On ne va pas tout reconstruire, mais au moins ce que l'on doit reconstruire, qu'on ait les aides assez rapidement. Je sais que, bon, là, le gouvernement se met en place, etc. Parce que, et je sais que le maire de Dimbéa, que j'ai eu au téléphone, est dans la même attente et tout, parce que nous, il nous faut régler ces problèmes pour la rentrée 2025. Ça va être un peu juste. Et puis, qu'on nous aide aussi pour l'achat du mobilier et tout. Quand on voit l'état financier des communes actuellement, je ne sais pas comment on va faire face à cela, quoi. Donc, on est tous à tendre la main vers l'État français, mais c'est une nécessité actuellement et pour la scolarité de nos enfants.
Gilles Brial, sur cette nécessité de faire appel à l'État, on sait que la reconstruction, j'allais dire, des établissements scolaires, ou en tout cas leur adaptation à la situation, c'est financièrement une charge très lourde. Tout le monde est d'accord pour dire que l'État doit intervenir ?
Ah ben oui, et on espère qu'il interviendra.
De façon prioritaire, d'ailleurs.
Mais c'est dans la globalité de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire c'est 250 milliards de dégâts, et aussi bien dans le public que dans le privé, parce que quand vous êtes dans une collectivité publique, nous on a des collèges qui ont été impactés, on a des bâtiments, on a des directions qui étaient sur 3 sites, et les 3 sites ont été endommagés ou incendiés. Donc il y a une reconstruction qui est nécessaire aujourd'hui. La Calédonie et les Calédoniens n'ont absolument pas la capacité financière de refinancer cette reconstruction. Le monde privé a besoin d'aide, parce que notre économie est en chute libre, mais si l'État n'intervient pas, on n'aura plus d'économie calédonienne dans quelques semaines, mais on aura également plus de collectivités, parce qu'aujourd'hui, moi je suis vice-président en charge du secteur de la jeunesse, du sport, de la culture, mais dans l'ensemble de mes secteurs, je suis obligé de faire des coupes pour pouvoir réussir à passer la fin d'année. On a une chute de nos recettes fiscales. Ben, quand une entreprise ferme, ben, elle ne paye plus d'impôts. Hein. Et quand les salariés perdent leur travail, et ben, ils ne paieront plus d'impôts, ils consomment moins. Donc on a un effondrement des recettes fiscales en Nouvelle-Calédonie. Et notre seule chance de nous en sortir, c'est qu'on ait une aide massive, et je rajoute urgente, comme vient de dire le premier adjoint, parce qu'on en a besoin tout de suite, tout de suite.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette question du bâti. C'est intéressant ce que vous disiez, Jean-Pierre Delrieux, parce qu'on va prendre l'exemple du collège de Rivière Salée. Il y avait prévu au départ des travaux dans les 2 bâtiments qui finalement ont été détruits. Et le seul qui subsiste, et il n'y en a plus qu'un qui subsiste aujourd'hui. Alors, parce que tous ces établissements scolaires, ce sont des lieux, ce sont des bâtiments, ce sont des constructions. Qu'est-ce que ça peut devenir ? Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait un jour un autre collège de plus petite dimension à Rivière Salée ? Comment ça se passe ?
Oui, alors, c'est important de le préciser. Nous, on fait ce qu'on appelle un PPI, un plan pluriannuel d'investissement. Donc, on dépense à peu près 1,2 milliard par an pour la rénovation de nos collèges. Et donc, on prévoit des travaux sur plusieurs années. Le collège de Rivière Salée, il y a un bâtiment administratif et 3 bâtiments de cours. Le bâtiment administratif a été entièrement détruit. Et les bâtiments 1 et 2 de cours qu'on avait prévu de rénover et détruire le 3. Finalement, le 1 et 2 ont été détruits, et c'est le 3 qui a été conservé. Ce que je veux dire par là, ok, on le ferme aujourd'hui, mais c'est l'évolution de la démographie en Nouvelle-Calédonie qui crée le besoin. La mairie de Nouméa a fermé des écoles à Nouméa parce qu'il y a eu un mouvement de population vers les communes de Dimbéa, vers les communes de Païta, qui, elles, au contraire, ont dû ouvrir des écoles aux fermetures. On a construit, ces dernières années, deux collèges dans la commune de Dimbéa, parce qu'il y a eu une augmentation importante de la population. Donc on est obligé, dans nos prévisions, de s'adapter et de construire des écoles là où il y a des besoins, des collèges là où il y a des besoins. Et quand il n'y a plus le besoin, on ferme pour le mettre ailleurs. Donc aujourd'hui, on est propriétaire de ces bâtiments. Moi, je suis incapable de vous dire de quoi demain sera fait. Je fais partie des Calédoniens qui espèrent qu'on va redevenir attractif. C'est loin d'être le cas aujourd'hui, mais qu'on redeviendra attractif un jour et qu'on repeuple la Nouvelle-Calédonie. Moi, je souhaiterais qu'il y ait 150 000, 200 000 personnes qui viennent en Nouvelle-Calédonie pour faire que, économiquement, la Nouvelle-Calédonie soit viable et autonome. Donc mais là, évidemment, qu'on reconstruira des établissements scolaires.
Sur cette question du bâti, Jean-Pierre Delrieux, c'est un patrimoine évidemment, mais quand vous fermez une école, elle existe toujours, enfin elle est toujours là, est-ce qu'elle peut avoir une autre vocation, comment ça s'organise ça?
Alors pour l'instant avec le maire, on s'est dit on va essayer de voir un peu, regarder et puis préserver nos locaux, donc on ne les a pas attribués, elles sont très sollicitées, les associations, etc., dès qu'il y a un local qui se ferme, et finalement, on a bien fait de ne pas les céder, puisque là, on en a cédé pour le Petro à Titi et puis pour le collège de Rivière-Salée. Éloi Franck aussi à Lanzvata a accueilli les enfants de Tuban, puisqu'on ne pouvait pas retourner dans l'école de Tuban. Après, il y a certains endroits où on veut installer des services administratifs, parce que là, maintenant, on a eu 37 bâtiments qui ont été brûlés quand même, qui appartiennent à la mairie pour X milliards. Donc il nous a fallu reloger nos services aussi. Donc on est dans une phase où on va regarder un peu tout ce que l'on a, tout notre patrimoine, et essayer de l'utiliser vraiment à bon escient. D'abord pour les besoins de la mairie propre et pour l'enseignement, parce que ça restera toujours prioritaire. Et puis on verra après si les associations, etc., peuvent aussi les utiliser.
Il y a une chose qu'on constate en vous écoutant les uns les autres, et c'est sans doute ça une très bonne nouvelle, monsieur le vice-recteur, c'est l'interaction qui existe entre justement les communes, la province, vous-même, l'État, etc. On sent que c'est tout le monde est mobilisé, quoi.
Absolument. L'éducation, c'est un sujet partagé, Donc je ne fais pas l'éducation tout seul. On travaille évidemment largement avec toutes les collectivités territoriales, et il y a effectivement un renforcement des coopérations dans cette situation d'urgence qui est effectivement bienvenue, qui est nécessaire.
Il y a un front commun. Est-ce que ça veut dire que tous les élèves auront une place à l'école à la rentrée prochaine? Est-ce qu'ils seront tous accueillis quelque part?
Alors, pour parler du second degré dont je m'occupe, la réponse est positive, évidemment. C'est notre travail. On fait en sorte que tous les élèves se retrouvent dans des locaux et qu'ils aient devant eux des enseignants. Ça va être le cas des élèves qu'on va transférer. Donc, évidemment, porte de fer, qui vont avoir devant eux des professeurs et des salles et un environnement équipé et des classements qui ne seront pas saturés, donc avec des taux d'encadrement tout à fait satisfaisants. Donc évidemment, on s'emploie à maintenir une qualité de service rendue aux familles.
C'est ça l'essentiel, Gilles Boyal, c'est d'arriver à une rentrée qui, après tous ces événements, après tous ces bouleversements psychologiques aussi, finalement sera relativement apaisée.
Oui, mais il y a encore des cailloux dans la chaussure. Un gros caillou, c'est la situation pour les habitants du Mont-d'Or Sud. Même si on a travaillé avec Isabelle Chambereau, avec Christopher Gilles et la province à mettre en place des navettes dédiées au personnel ou aux étudiants, ça n'est pas encore satisfaisant pour une raison simple, c'est que on n'a pas la capacité technique de transporter assez de monde, et puis on n'a pas les infrastructures qui sont prévues pour ça aujourd'hui. On voit là, quand on a de la houle d'ouest, les grosses navettes ne peuvent pas accoster. Donc moi j'espère que le Mont d'Or sera libéré rapidement pour que à la fois le personnel enseignant et les élèves surtout, qu'ils soient collégiens ou étudiants du Mont d'Or, puissent retrouver une scolarité normale. Est-ce qu'on a cette problématique là? On l'a sur quelques endroits comme à Thieu également. Donc l'objectif, c'est de régler ça pour la rentrée, parce que Il y a des endroits où l'amélioration est très nette et il y a des endroits où c'est encore difficile.
C'est vrai que la situation au Mont-d'Or est un peu compliquée, monsieur le vice-recteur, de par effectivement l'impossibilité physique pour les élèves, souvent d'aller jusqu'à leur établissement. Ça pose évidemment des problèmes de continuité, j'allais dire, dans l'apprentissage.
C'est le plus gros problème, je trouve, qu'on ait à régler aujourd'hui, c'est la situation de toute la population qui est impactée par la problématique du Mont-d'Or. Hein. Moi, j'ai plusieurs établissements. Ce n'est pas seulement le lycée du Mont-d'Or, c'est le collège de Plume, le collège de Boulary. Si vous voulez, c'est d'autant plus difficile à régler qu'on croit que le problème est simple. Et en fait, il est très complexe à régler. Sinon, évidemment, on aurait trouvé déjà depuis fort longtemps une solution. Donc, pour ce qui nous concerne, on a renforcé l'accompagnement pédagogique. Évidemment, on ne peut pas envisager la création d'une structure de scolarisation en dur sur cette zone-là. Donc, on est obligé de faire avec l'établissement qui existe et de renforcer le lien pédagogique et la continuité pédagogique. Et c'est ce que je ferai. Je voulais y aller aujourd'hui. Je pense que j'ai été dissuadé d'y aller, mais donc je vais m'y rendre à nouveau dans ces prochains jours.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous dans ce magazine pour faire un point donc justement sur le secteur de l'enseignement. On a bien compris que tout le monde faisait front commun en ce moment pour résoudre les problèmes. Merci Gilles Brienne, merci Jean-Pierre Delrieux,
merci
Mathieu Bilstrecker.
Merci beaucoup.